Bonjour à tous et à toutes. Il est 18h et tout de suite ses premières pages sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Non, c'est pas vrai!
Qu'est-ce que tu dis?
Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit.
Qui t'a dit comme t'avais puni?
C'est écrit là.
Voyons, voyons, mais... Tu sais lire?
Oui.
Première page, c'est la chronique littéraire pour lecteurs décomplexés. Un vendredi sur deux, à 18h, sur Radio Campus Paris. Dans ce 18e épisode, la bande dessinée est à nouveau à l'honneur avec Musée de Chabouté. Lorsqu'un bédéiste ouvre les portes du musée d'Orsay, c'est un monde secret et merveilleux qui s'offre à nous. Je m'appelle Louisa Georges et vous écoutez le 18e épisode de Première Page, un vendredi sur deux, à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Je ne veux plus que Marcel rentre dans une classe, ni même ouvre un livre, avant l'âge de 6 ans. Laisse-le encore un peu faire l'enfant.
Seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis, les musées sont des espaces dans lesquels je me sens bien. J'aime ces lieux pour leur calme, même si ce n'est pas toujours le cas. J'aime ces moments solitaires, cette introspection sur les œuvres, ce qu'elles m'inspirent, pourquoi celle-ci et pas une autre. Même lorsque je suis accompagnée, je privilégie toujours l'expérience solo, je déambule à mon rythme, je me laisse porter. Pour ce qui est de mes préférences, j'avais commencé à l'évoquer lors de mon épisode dédié à la jeune fille à la perle, j'ai un faible pour l'art pictural. Les tableaux que j'ai le plus de plaisir à contempler appartiennent au mouvement impressionniste. Pour moi, cette esthétique s'apparente à une rêverie, à un monde vaporeux, quasi imaginaire. Entre ma passion pour cette période et cette atmosphère de plein air, ces lumières, ces mélanges de couleurs, ces œuvres peuvent soutenir mon intérêt un certain temps lors de mes visites. Autant dire que le musée d'Orsay à Paris occupe une place toute particulière dans mon cœur. Son premier attrait vient de cette architecture si singulière. Orsay est une étoile aux multiples branches. Tout part de ce grand hall, surplombé par les verrières et la grande horloge, rappelant la gare qui reliait jadis la capitale à Orléans. En revanche, pour ce qui est de sa muséographie, mon intérêt est assez récent. Il s'est affirmé suite à ma chance d'y faire un stage de fin d'études. En suivant la conservatrice, je comprends l'harmonie des lieux, me familiarise avec ses œuvres, avec le lien qui les unit et d'un coup, je prends conscience de ce tout. Grâce à cette opportunité, je vis également l'expérience folle de profiter du bâtiment vide. Seul, entouré des statues, loin de la foule, en toute intimité, dans un moment magique et privilégié, je découvre le musée, enfin. Cet instant suspendu dans le temps, l'auteur d'aujourd'hui en a fait le sujet de son tout dernier ouvrage. J'ai donc le plaisir de vous partager un bout de cette belle histoire avec mon dernier coup de cœur BD, sorti juste à temps pour trouver sa place en cette fin d'émission. L'épisode du jour est dédié à Musée de Chabouté. Avant de vous présenter ce petit bijou, voici quelques mots sur notre auteur. Né en Alsace en 1967, Christophe Chabouté étudie l'art à Mulhouse, Angoulême, puis aux arts décoratifs de Strasbourg. Ayant notamment fait de la publicité, son travail en tant qu'illustrateur est repéré en 1993 suite à sa participation au Récit, album collectif sur Arthur Rimbaud. En 1998 paraît Sorcière, son premier roman graphique qui est alors primé au Festival d'Ilzac. S'ensuit plus d'une dizaine d'ouvrages et de nombreuses récompenses. Il réalise également plusieurs adaptations bande dessinée, comme celle de Moby Dick qui paraîtra en deux volumes en 2014. Sorti le mois dernier aux éditions Vent d'Ouest, Musée son dernier album. Je remercie d'ailleurs tout particulièrement Kéliane pour cette recommandation et pour l'interview de notre auteur qu'il a menée pour le média Actu BD, me permettant ainsi d'en apprendre un peu plus sur le bédéiste dont je découvre, je l'avoue, tout juste le travail. Les premières visites de Chabouté au musée d'Orsay remontent à ses études aux Beaux-Arts. Il est alors marqué par les statues des parlementaires de Daumier qu'il imagine chuchoter à son propos lorsqu'il a le dos tourné. Les petits bustes en terre cuite aux expressions atypiques occupent d'ailleurs une place toute particulière dans l'œuvre. Musée est un projet de plusieurs années. Une longue période de prise de notes rythmée par les visites de l'auteur et une année de dessin environ auront été nécessaires pour produire l'ouvrage. Connu notamment pour son amour du noir et blanc, la bande dessinée d'aujourd'hui ne fait pas exception, nous offrant, tout en nuances d'ombre et de lumière, le musée tel que vous ne l'avez jamais vu. Ainsi, sublimé par son coup de crayon, le monument parisien prend la forme d'un refuge merveilleux pour qui souhaite en faire partie. Musée, ça parle de quoi ? Toy Story, La Nuit au musée, nombreux sont les artistes ayant imaginé ce monde parallèle où l'inanimé s'anime lorsque notre regard de pauvre mortel se porte ailleurs. Souvent liée à la nuit, fascinante, mystérieuse, dans l'œuvre d'aujourd'hui, c'est à sa fermeture que le monument parisien prend vie. Difficile de résumer la bande dessinée à une seule histoire. En réalité, le récit repose sur une multitude de personnages partageant tous la même scène, le musée d'Orsay. L'auteur alterne entre les heures d'ouverture, ses touristes, employés, et une fois les portes closes, changement de décor. Ce que l'on croyait éternellement endormi s'éveille. Les modèles quittent leurs tableaux, les statues descendent de leur socle, et chacun retrouve ses habitudes et points de rendez-vous quotidiens. Un univers parallèle prend forme, donnant naissance à des relations tout à fait saugrenues. Les amis d'une nuit discutent des touristes observés en journée. Les amants, séparés par un couloir ou un étage, se retrouvent pour échanger des mots doux. Certains, plus solitaires, découvrent à distance ce monde du vivant, protégé par le secret des portes closes. Le récit avance au fil des anecdotes de chacun. Les jours de visite sont des intermèdes, nous permettant d'observer avec le point de vue des œuvres les visiteurs. Leur mimique et expression, un large spectre du public observé, décrypté avec minutie par notre auteur. On y retrouve les critiques d'art du dimanche, persuadés d'avoir compris l'âme de l'auteur à travers ce tracé, cette tache de couleur, leur vérité faisant foi pour les pauvres malheureux qui ont accepté de les accompagner. Mais également les soupirs et questions farfelues des groupes d'écoliers, ou encore les plus patients, assis sur leur banc, imperturbables. Et puis il y a vous, toi, moi, chacun peut se reconnaître dans ce vaste panel du visiteur lambda. On imagine facilement Chabouté assis sur un banc pendant des heures à nous observer tous. Nos mimiques, nos instants suspendus où le regard s'arrête, nos sourires en coin, nos élans lyriques. Puis de nouveau la nuit tombe et nous voilà replongés dans ce rêve éveillé. Mais alors, pourquoi ai-je tant aimé cette bande dessinée ? Déjà, parce que le concept est merveilleusement bien amené. Chabouté dépeint avec finesse l'ambiance du musée, son public et l'atmosphère si singulière des lieux, qu'ils soient grouillants de visiteurs ou nocturnes et silencieux. On doit cette justesse notamment à la capacité de l'auteur à prendre son temps. Se dégage à la lecture un amour du détail, une générosité. Le moindre tracé est réfléchi et chaque planche est une réussite. Il n'est pas question de bâcler quoi que ce soit. Les dénouements sont progressifs, laissant les émotions nous envahir peu à peu. C'est une bande dessinée qui rend curieux. Quelle est cette toile observée par ces badauds au regard malicieux ? Qui observe ce promeneur et son chien depuis les hauteurs du bâtiment ? Où est passé l'Olympia de Manet et bon sang, à quoi peuvent bien servir ces grandes vasques blanches ? Les intrigues sont drôles, touchantes, poétiques. On n'a qu'une envie à la lecture, c'est de se rendre au musée simplement pour s'asseoir et observer. Le charme du récit repose sur cette bascule de point de vue, entre celui du public sur ses œuvres et les remarques de ces dernières le soir venu, revenant amusé sur telle remarque, tel contact. Il est également intéressant de constater à quel point les personnages incarnant les modèles et sculptures animées n'ont pas des caractères si prévisibles. Contrairement aux parlementaires, chers à notre auteur, dépeints comme hautains, moqueurs, à l'image du projet de Daumier, la majorité des personnalités sont détachées des histoires, des contextes de production, des courants auxquels ils appartiennent. De ces anachronismes émergent des scènes atypiques, comme les disputes régulières entre un portrait moderniste et une statue antique, ou encore d'une histoire d'amour passionnée entre Anacréon et la lectrice de Fantin Latour. Il demeure toujours un décalage. Ces créatures fantastiques prennent vie dans un univers qui n'est pas le leur. Ils sont comme enfermés entre ces quatre murs, mais ne cherchent pas pour autant à comprendre ou même à sortir. Ils se contentent de répéter les mêmes interactions tous les soirs, créant des liens incongrus et donnant naissance à des conversations, tantôt profondes, tantôt futiles. Nous sommes alors témoins de leur interrogation presque enfantine sur le monde qui les entoure, le sens de leur existence. La question du physique, par exemple, des corps nus, du regard, est régulièrement posée, autant intrigante pour les touristes que pour les principales concernées. Ce recul, permis par ces échanges peu ordinaires, offre un point de vue nouveau, s'en dégage une certaine naïveté qui prête à sourire, mais surtout à réflexion. Le bâtiment devenant une bulle, un lieu à part dans lequel le temps ne semble plus filer à la même allure. Cette coupure avec l'extérieur, je la retrouve au musée, mais aussi au cinéma. Au moment où l'observation, le retour sur soi, prend le pas sur les préoccupations du dehors, sur la vie quotidienne. Cette distance, je l'ai ressentie en lisant cette bande dessinée. C'est une œuvre apaisante. Les dialogues sont rares, il ne se passe en réalité pas grand-chose. Ces créatures imaginaires n'ont pas de quête ou d'aventure rocambolesque. Inutile. Leur existence à elle seule soutient bien assez notre intérêt. Il est simplement plaisant d'observer, de comprendre progressivement où nous emmène l'auteur, de se laisser porter. Nos personnages se contentent de vivre, d'échanger, de rêver, nous offrant une fresque poétique de ce monde parallèle que l'on aimerait découvrir à la manière de Chabouté. Sans bruit, sans un mouvement, là, silencieusement, entre deux toiles vierges. C'était un extrait de Stay Awake de London Grammar. Vous écoutez Première Page, une chronique littéraire pour lecteurs décomplexés sur Radio Campus Paris 93.9 FM. L'épisode du jour porte sur Musée de Chabouté. Avec un regard presque enfantin, notre auteur s'amuse en nous transmettant cet univers sorti tout juste de son imagination. D'ailleurs, l'ouvrage est tout à fait accessible et ne s'improvise pas une rigueur universitaire. Chabouté s'appuie sur les œuvres les plus célèbres du musée, permettant à une majorité de lecteurs de reconnaître au moins un personnage fictif. Et en tant que lectrice prenant un rapport décomplexé à la lecture, je me dois de saluer cette approche simpliste du monde de l'art pour en faire un sujet de fiction drôle, touchant et instructif. Le récit compte peu de dialogues, donnant une place prépondérante à notre imagination. C'est elle qui nous anime, nous pousse à tourner les pages les unes après les autres pour y découvrir les belles surprises que nous réserve le bédéiste. Ce dernier s'applique à reproduire avec finesse les traits du visage, la diversité des corps, mais également les tableaux et statues qui peuplent les nuits du musée. Je ne suis pas une fan du noir et blanc, mais je dois dire que l'auteur a su me réconcilier avec cette esthétique. En noir et blanc, on ne fait plus la différence entre le marbre, la peinture, la terre cuite et la peau. Tout se mélange, on observe les observateurs et l'objet de leur intérêt. On s'observe nous-mêmes, troublés par ces reproductions particulièrement justes du réel. Pour aller plus loin, je recommande Le parfum des fleurs la nuit, récit autobiographique de Leïla Slimani, paru en 2021, le dessin animé Le tableau, réalisé par Jean-François Laghioni, sorti en salle en 2011, et bien sûr de découvrir ou redécouvrir le musée d'Orsay, car on n'a jamais fini d'en faire le tour. C'était le 18e épisode de Première Page. Rendez-vous dans 15 jours, même heure, pour une prochaine et dernière lecture sur Radio Campus Paris 93.9 FM.